Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Thomas Rozek. La semaine passée, on s'est intéressé au phénomène très actuel des internet boyfriends, ces stars hissées au pinacle par des hordes de fans en quête de modèles masculins adaptés à notre époque. On a d'ailleurs à cette occasion souligné le fait que si l'univers des fans n'avait pas attendu internet pour s'organiser et prospérer, il avait clairement bénéficié des nombreuses opportunités qu'il lui offrait. C'est également vrai en ce qui concerne une activité spécifique des fans, la fan-fiction, ces textes écrits par les fans issus de leur production culturelle préférée et qui depuis quelques années et quelques succès d'éditions passées des niches spécialistes au grand public sont scrutées de plus en plus près, à tel point que par exemple, tout récemment, les prestigieux Hugo Awards, sans doute la récompense la plus emblématique de la littérature de science-fiction, a annoncé dans sa liste de nommés l'un des plus grands sites américains de fan-fiction. Tout ça nous a donné envie d'y regarder de plus près et de comprendre à quels besoins culturels ces plateformes de plus en plus fréquentées répondent. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Comme à chaque fois qu'on s'attaque à des strates pas nécessairement ultra connues du web, pas d'inquiétude, on va démarrer progressivement avec les bases grâce à une habituée de ce podcast, ma consoeur Lucie Ronfaux du Figaro, qui connaît de l'intérieur cet univers et qui donc était la personne idéale pour répondre à la première et la plus essentielle des questions, c'est quoi concrètement la fanfiction ?
Alors une fanfiction, c'est une œuvre amateur qui a pour but d'amender, de modifier, d'imaginer une fin alternative, de complètement réinventer une œuvre de fiction existante ou une situation réelle, ou des personnes réelles. Par exemple, une œuvre qui a beaucoup inspiré de fanfiction, c'est Harry Potter, typiquement. Ouais. Donc une fanfiction d'Harry Potter, ça va être, je sais pas, moi, imaginer que Harry, Ron et Hermione, qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard, ou alors complètement changer l'univers et se dire qu'est-ce qui se passerait si ils n'avaient jamais été sorciers et qu'en fait, ils avaient fait leurs études à Londres comme n'importe quels étudiants. Et pour les célébrités, ça va être, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si un jour Taylor Swift était président des États-Unis ? Ou alors, je vais imaginer une passion torride avec, je sais pas moi, Keanu Reeves. Voilà, donc tout ça, ce sont des fanfictions.
J'imagine qu'il y a un peu des classiques dans le sens où il y a des schémas un peu qui se répètent dans la fanfiction. C'est quoi un peu les éléments centraux et essentiels qu'on retrouve un peu partout dans ces fictions là.
C'est une bonne question. Alors les fanfics fonctionnent beaucoup par ce qu'on appelle des tropes qui sont ouais. Qui sont en fait des clichés un peu qui sont récurrents. Alors par exemple il y a un truc qu'on appelle les AU. Alternative Universe, ouais. Qui sont en fait le principe de reprendre des personnages d'une fiction et de les mettre dans un univers complètement différent. Donc par exemple, un trope AU assez connu, c'est le coffee shop AU. Donc je vais prendre par exemple les X-Men et je vais décider qu'ils bossent chez Starbucks. Voilà, ça D'accord. C'est un truc assez commun. Donc les tropes, il y en a pas mal. Hein. Après, plus généralement, ce qui fait une fanfic généralement, c'est une œuvre qui est dans sa majorité écrite par des femmes, les autrices de fanfiction sont quand même globalement des femmes, beaucoup d'insistance sur la romance, sur les sentiments, ouais. Ça c'est commun à beaucoup de fanfics, et quand on parle de romance et de sentiments, on parle pas que de couples hétérosexuels, et ouais. En fait assez souvent de romances homosexuelles, entre filles, entre garçons, etc. Donc ça c'est le truc commun aux fanfics. Après, une fanfiction ça peut prendre plein de formes, ça peut être très court comme ça peut être très long, hein. Ouais. Il y a vraiment des fanfics qui font la taille de plusieurs bouquins. Donc c'est très divers.
Et comment comment ça se regroupe ? Parce qu'il y a ça forme vraiment une communauté au sein, enfin voire même une galaxie de communautés au sein du web. Comment est-ce que ça se regroupe ? Comment est-ce que ça s'échange ? Où est-ce qu'on les trouve tout simplement ces fanfics ?
Alors la fanfiction est un phénomène qui est pas récent, hein, dont on retrouve des traces à partir des années 50-60, notamment avec tout ce qui est fan de Star Trek. Il y avait des fans de Star Trek qui s'amusaient à écrire des histoires histoires sur Star Trek et qui les vendait sous forme de fanzine papier et qui les envoyait par la poste. Alors néanmoins, les fanfics ont clairement bénéficié de l'essor d'Internet, hein, et notamment la création de plateformes dédiées aux fanfictions. Alors la première grosse plateforme de fanfiction, c'est fanfiction.net, qui a été créée de mémoire dans la fin des années 90 et qui a vraiment permis l'essor de cette activité-là. Aujourd'hui, elle est un peu moins fréquentée et maintenant, on va plutôt aller autour de plateformes comme AO3, Archive of Your Own, qui est la plus grosse plateforme de fanfic actuellement, qui est gérée de manière bénévole. C'est le cas de quasiment toutes les plateformes de fanfic, hein, c'est ce qui est intéressant. Et l'autre gros site qu'on connaît tous, qu'on connaît beaucoup de fanfic, c'est Wattpad. Alors Wattpad, c'est un peu une exception dans le milieu de la fanfic parce que c'est une entreprise qui a en fait perçu ce phénomène de ces jeunes femmes, et jeunes hommes aussi, hein, mais quand même plutôt jeunes femmes, qui adoraient passer leur temps à écrire, à inventer des histoires, et qui se sont dit qu'ils allaient en fait développer une plateforme commerciale autour de ce sujet. Et là, ce qui est intéressant dans Wattpad, c'est que donc il y a beaucoup de fanfiction, c'est plutôt un public jeune, donc beaucoup de fanfiction autour de célébrités. Il y a beaucoup de fanfic autour des youtubeurs, de fanfic autour des One Direction, le boys band anglais, etc. Mais aussi beaucoup d'écrits originaux. Donc là, en fait, c'est vraiment des jeunes femmes qui écrivent leurs histoires avec des personnages qu'elles ont créés, etc. Mais qui reprennent ce dont on parlait, c'est un peu ces clichés de la fanfic, donc la romance, beaucoup de trucs autour de la sexualité, notamment féminine. En fait, c'est vraiment des jeunes femmes, pour moi, hein, qui viennent chercher ce que la littérature classique ne leur apporte pas. C'est-à-dire des histoires originales, des histoires avec beaucoup de sentiments, des histoires autour de femmes, des histoires de romance lesbienne et homosexuelle, etc., etc.
Mais j'ai l'impression que la perception de la fanfic par ceux qui ne font pas partie de la communauté a légèrement évolué ces derniers temps. C'est-à-dire que ça a pu pas mal être traité avec mépris, voire avec un peu d'ironie par les gens qui n'en faisaient pas partie, où on ressortait des fanfics qui étaient mal écrites ou qui mettaient en scène des situations qui paraissaient absurdes. Et maintenant, c'est vu avec un peu plus d'intérêt, voire un regard beaucoup plus bienveillant, j'ai l'impression.
Alors ça a changé, c'est pas le mépris n'a pas disparu, hein, ouais. Parce que et ça c'est du bête machisme aussi, hein, parce que encore une fois la fanfic est une activité principalement
féminine,
de jeunes femmes,
ouais.
Et donc on se moque en fait de ces, ouais, jeunes femmes sur Internet. Après c'est vrai que il y a eu pas mal d'exemples de fanfic qui ont créé des vrais succès commerciaux, donc rien que de ce point de vue là ça a été davantage pris au sérieux. Typiquement Fifty Shades of Grey,
oui.
Qui est un énorme succès littéraire et au cinéma aussi, c'est une fanfic de Twilight à l'origine,
à la base,
qui,
oui,
a été en fait réadaptée pour être vendue sous forme, voilà.
Twilight.
Pareil, un autre roman dont l'adaptation en film vient de sortir, c'est After de l'anglaise Anna Todd, qui là pour le coup c'est elle avait imaginé en fait une romance avec Harry Styles, qui est l'un des chanteurs de One Direction, le groupe anglais, et pareil, bah, elle l'a un peu remodifié, elle l'a vendue en roman et ça a eu un succès démentiel. Donc c'est plus pris au sérieux parce qu'on se rend compte que ça fait de l'argent. Après, je sais pas si vous vous souvenez des réactions lors de la sortie de Fifty Shades of Grey, tout le monde s'en est moqué en parlant de porno pour maman, de et parce que encore une fois, ça choque encore aujourd'hui que des femmes puissent déjà écrire sur le BDSM, écrire sur le cul, pas forcément se prendre la tête, parce que c'est vrai que les fanfics, beaucoup sont écrits de manière assez simple. Alors, c'est pas le cas de toutes, hein, mais... Et il y a encore ce mépris qu'on retrouve pas pour d'autres œuvres littéraires. Je sais pas, moi, les SAS, moi, je les trouve assez ridicules, et pourtant, je vois pas grand monde se moquer sur Twitter des romans érotiques de SAS. Et pourtant, Fifty Shades of Grey, on s'en moque. Donc bon.
Petite parenthèse, au cas où vous ne connaîtriez pas, bande de petits chanceux, SAS, incroyable success story de l'édition française. 200 romans écrits sur près de 40 ans par l'improbable Gérard de Villiers, de l'espionnage façon sous James Bond, avec des titres de bouquins aussi riches en évocations que La Panthère d'Hollywood, Safari à la Paz, Ramenez-moi la tête d'El Coyote ou L'amour fou du colonel Chang. Finesse raffinement qu'on retrouve sur les couvertures à base de femmes en tenue légère tenant des armes à feu. Voilà, ça valait le coup de le préciser.
Je pense vraiment qu'il y a une prise au sérieux et aussi une certaine admiration et qui est légitime, hein, face à ces filles qui vraiment passent leur journée à écrire des véritables romans, quoi. Et quand on y réfléchit, même le principe de la fanfic, alors il a été associé à la fiction populaire à partir des années 50 avec Star Trek, mais il y a plein d'exemples en fait de fanfic qui n'ont rien à voir avec de la pop culture, hein. En un sens, tous les récits et sites de légendes issus de légendes, ce sont des fanfics, hein.
Oui.
Les Chevaliers de la Table Ronde, ce sont des écrivains qui sont basés sur une œuvre de fiction qui était les légendes du roi Arthur et qui ont décidé d'écrire des romans autour. Donc c'est assez universel, c'est juste que là ce qui est surprenant c'est son organisation et sa polarisation autour d'internautes des femmes.
Et surtout, si on parle de perception, On voit un glissement, notamment avec le fait que les Hugo Awards, donc qui est ce très grand prix de littérature de science-fiction, a nommé cette année parmi les potentiels lauréats donc de son prix, Archive of Around, dont on parlait tout à l'heure, la grande plateforme de la fanfiction. Donc ils font partie des nommés. Donc c'est une reconnaissance là pour le coup d'une des plus grosses institutions de littérature fantastique.
Ouais, absolument. Et ça récompense une communauté. C'est assez fou en fait que ça ne récompense pas une fanfiction. Ils ont décidé de récompenser ce principe qui est de dire tous les jours des milliers, des millions d'internautes vont sur ce site pour publier des œuvres de fiction et on trouve ça chouette et on a envie de. Enfin, ils n'ont pas encore reçu le prix, ils ont été nominés, mais on a envie de célébrer cette culture. Et c'est vrai que c'est assez admirable. Et alors, moi, je suis un peu biaisée parce que moi-même, j'ai écrit beaucoup de fanfiction, je lis toujours beaucoup de fanfiction. Et pour moi, en tout cas, c'est devenu un vrai réflexe, quoi. Et c'est une de mes manières de consommer de la culture, d'interagir avec ma culture. Moi, quand je vois un film, en rentrant, je regarde s'il y a des fanfics qui continuent un peu l'histoire parce que ça me permet de me replonger dans l'univers.
Si on en reste à l'univers de la pop culture, ou si on en revient à l'univers de la pop culture, moi, il y a une question qui quand même me vient, c'est le fait, on l'a dit au tout début, que pas mal de ces fanfics, enfin beaucoup de ces fanfics, se basent donc sur des univers fantastiques qui existent déjà, notamment des univers littéraires. On parlait d'Harry Potter tout à l'heure, mais je sais que c'est le cas aussi du Trône de Fer de George Martin aussi, évidemment, vu que c'est sans doute une des œuvres les plus connues et commentées depuis qu'elle a été adaptée à la télévision. Comment est-ce que les auteurs de ces œuvres-là, donc J.K. Rowling, George Martin et bien d'autres, perçoivent ce travail de fan? Est-ce qu'ils le perçoivent de manière positive ou plutôt négative?
C'est très divers. Ouais. Alors, il y a des auteurs et des autrices qui viennent du milieu de la fanfic et qui, ouais, du coup, sont assez...
Forcément, du voilà, coup, regard bienveillant là-dessus.
Une certaine affection vis-à-vis de cet univers. Il y a des auteurs qui le vivent très très mal. Qui estiment que pour eux, une œuvre, l'œuvre qu'ils créent est la leur et qu'elle n'appartient à personne d'autre et que personne n'a à la retoucher. Parce qu'il y en a qui le vivent comme une critique, hein, qui se disent « Ah, bah, mon roman, il n'était pas assez bien pour toi, donc tu as besoin de
modifier. » De réécrire la fin ou de changer les choses.
Alors qu'on peut répondre que non, c'est parce que ton univers était tellement riche et tellement sympathique que moi, j'ai envie de continuer à vivre dedans avec mes propres mots. Bon. George R.R. Martin, typiquement, est un exemple d'un auteur qui n'aime pas les fanfics et qui l'a déjà dit, qui n'est pas à l'aise avec le principe. Alors, il n'est pas à l'aise parce qu'il y a des auteurs... Hein. Techniquement, légalement, la fanfic est un peu dans une zone trouble. Normalement, si tu fais pas d'argent sur une fanfic, tu as le droit de publier une fanfic en ligne. Après, ça reste une œuvre qui est soumise au droit d'auteur et, oui, dont on s'inspire. Donc bon, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a les auteurs qui, au contraire, sont super contents. De la même manière que des auteurs adorent les fanarts. Donc du coup, ils en partagent. Il y a pas mal d'auteurs qui conseillent, quand on est soi-même auteur, de ne pas lire les fanfics. De regarder ça de loin avec bienveillance, mais de pas les lire parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué d'interagir avec les fans aussi, parce qu'il y a des fans un petit peu intenses, on va dire, et aussi parce que c'est assez particulier quand même, hein, de lire son œuvre se faire un peu décortiquer. Il y a énormément de cul aussi, donc quand on crée des personnages, j'espère, moi, genre J.K. Rowling, j'espère pour elle qu'elle a pas lu beaucoup de fanfic Harry Potter, parce que le nombre d'aventures BDSM entre tous les personnages, d'ailleurs. y en a quand même pas mal. Et pour un auteur, ça doit être un peu bizarre. Et puis alors, il y a le cas aussi des gens réels qui font l'objet de fanfic. Et là, c'est encore un autre niveau où, pour le coup, ça peut créer beaucoup de malaise, quoi.
Si elle est à la fois connue de plus en plus des internautes et par la force des choses de plus en plus des lecteurs classiques, la fanfiction reste, vous l'avez compris, relativement dans l'ombre. Le meilleur exemple de cet état de fait, c'est qu'il n'y a qu'une poignée de chercheurs qui ont choisi de s'y intéresser en France. Parmi eux, Brigitte Chaplin, maître de conférences à l'université Paris 13, qui a écrit et dirigé plusieurs ouvrages qui traitent du rôle et de la place des productions de fans, notamment sur le web. Je suis allé la retrouver dans un café parisien pour lui demander tout d'abord si l'une des particularités de l'univers de la fanfiction, c'était d'être à la fois très fédérateur et très spécifique, très segmenté.
Je ne sais pas si c'est segmenté, mais disons c'est à la fois quelque chose de solitaire au départ, et on rentre dans une communauté. Donc solitaire, ça veut dire que le jeune adulte est un vrai lecteur. Alors, vrai lecteur par rapport à la culture classique, c'est pas forcément Balzac ou Flaubert, mais enfin il y a quand même, par exemple, des fanfictions de Jane Austen. Donc ça veut dire aussi que même Les Misérables de Victor Hugo, donc c'est quand même, ils peuvent s'intéresser à des textes, c'est pas la majorité, mais ils peuvent travailler, lire et écrire des textes après en fonction de ces canevas-là. Et ensuite, très vite, quand ils commencent à écrire même des choses très petites, ce qu'on appelle one-shot, c'est-à-dire des textes très courts, Bah, ils sont pris dans la communauté dans laquelle ils rentrent, c'est-à-dire ça peut être des grosses plateformes, mais ça peut être aussi des sites beaucoup plus confidentiels, où il y a évidemment moins d'abonnés, mais enfin il y a toujours les mêmes, je dirais, la même structure et les mêmes stratégies. J'écris, je suis corrigée, je suis plusieurs fois corrigée, gentiment on me fait des petites réflexions, des conseils, etc. Et ensuite, il y a le bêta-lecteur qui laisse passer mon texte ou pas, voilà. Donc, c'est ça. Effectivement, c'est très vrai ce que vous dites.
Et vous avez prononcé un mot qui me semble assez important dans le phénomène de la fanfiction, on va dire, si tant est que ce soit réellement un phénomène ou plutôt quelque chose de plus au long cours qu'un phénomène, justement. C'est le terme de gentiment. J'ai l'impression, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris de cette communauté que moi, je ne fréquente pas, qu'elle reposait pas mal aussi sur la bienveillance.
Oui, je crois que la bienveillance, c'est important. Alors ça, je dirais pas ça pour tous les sites de fanfiction, mais quand on regarde fanfiction.net ou fanfiction.fr, c'est effectivement une ambiance qui est attentive et où d'ailleurs, je crois que les jugements pernicieux ou méchants ou injustes, voire violents, sont interdits. Il y a une espèce d'éthique aussi dans ces plateformes-là, voilà.
Est-ce que c'est un phénomène, alors vous avez devancé un peu ma question, mais on va quand même y revenir, ça n'est pas qu'un phénomène anglo-saxon, parce qu'on l'associe beaucoup à, forcément à la pop culture et donc à des productions qui sont américaines ou anglaises, mais essentiellement américaines, mais vous l'avez dit, il y a des portails français, francophones, ça n'est pas qu'un phénomène américain.
Alors, quand même les anglophones ont été plus présents dès le départ, hein. Si on regarde les fanzines, c'est-à-dire ces petites publications d'échanges sur les lectures, de conseils, des correspondances entre lecteurs, etc., voire même des correspondances de lecteurs à écrivains, enfin écrivains, oui, à auteurs, eh bien, c'est du papier qui circule dès le 19e siècle, et carrément, alors, aux États-Unis en particulier, au début du 20e, quoi, voilà. Et il y a aussi une tradition qu'on oublie souvent, qui n'est pas forcément, qui se copie pas sur le phénomène fanfiction, mais dans les pays anglophones, il y a une forte tradition de clubs de lecture. Le club de lecture qui était évidemment en présence à l'époque. Les gens lisaient un livre, ils se voyaient, ils disaient ce qu'ils en pensaient. Ils s'encourageaient, voilà. Et donc, pour vous dire qu'il y avait des communautés au niveau de la lecture qui étaient déjà là, beaucoup plus fortes qu'en France, en fait.
Je me demande dans quelle mesure, parce qu'on a beaucoup parlé de fanfiction ces dernières années, notamment grâce au succès, je pense, de 50 nuances degrés, par exemple, qui était donc un dérivé de Twilight, qui est l'exemple qu'on nous ressort souvent pour dire, voyez, la fanfiction fait émerger des nouveaux auteurs. Je me demande dans quelle mesure, finalement, les plateformes de fanfiction et les auteurs de fanfiction n'ont pas envie, quelque part, ne font pas ça pour ça, c'est-à-dire n'écrivent pas ces textes-là dans le but d'être publiés, de devenir eux-mêmes auteurs, mais c'est un autre, d'autres ressorts qui sont à l'œuvre dans leur démarche d'écriture.
Ouais, alors je pense que la première chose qu'il y a quand la première motivation, c'est quand même, c'est pas des adultes, hein, c'est des jeunes adultes, donc ça va jusqu'à 35 ans, quoi, disons. Il y a effectivement le plaisir de lire et de partager sa lecture. Et partager sa lecture, c'est écrire. Donc il y a aussi le plaisir d'écrire. Il y a le plaisir de partager, de rentrer dans une communauté dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi le deuxième plaisir, c'est ce que j'appellerais le passage, pas forcément de devenir un écrivain, mais le passage de l'amateur à l'expert. C'est-à-dire qu'ils veulent progresser. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans cette philosophie-là, mais beaucoup de writers, de jeunes écrivains de fanfiction, veulent progresser et quand ils sont sur des plateformes qui sont bien faites, ils sont absolument encouragés. Et ils sont très contents de réussir, etc. De là à... Bien sûr, il y en a qui disent qu'ils veulent être écrivains, etc. Mais, je ne sais pas, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a vraiment plein d'écrivains qui sortent des plateformes de fanfiction. Non, bon. Mais il y a le troisième angle qui est intéressant, c'est l'angle pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de reviewers, de bêta-lecteurs, c'est-à-dire ceux qui ont un certain potentiel, une certaine habitude, une certaine intégration dans la communauté, qui conseillent, qui font des corrections, etc. Et il y a des responsables, des plateformes elles-mêmes, enfin, il y en a en francophone, il y en a deux, dont je parlais tout à l'heure, et là, il y a vraiment un travail pédagogique qui est fait, Il y a beaucoup de jeux, enfin, c'est très ludique, des concours, et tout ça, on est dans l'écriture, etc. Il y a des récompenses, donc il y a tout un côté... Sans doute que l'école ne donne pas de la même manière, bien entendu. L'école ne s'intéresse pas à cette littérature-là. Donc il y a tout ça aussi qui est derrière, je pense.
On a beau dire qu'Internet révolutionne beaucoup de choses. Finalement, en fait, on reproduit ce qu'on a pu connaître dans la pratique amateur de l'aventure, dans la pratique amateur de la musique, qui, du fait justement de non-formation et d'empirisme, quelque part, faisait émerger de nouvelles pratiques.
Jürgen Müller, un enseignant-chercheur allemand, a remis à la mode le concept, moi j'utilise pas beaucoup les concepts, surtout dans les interviews, mais là je trouve ça vaut le coup, le concept d'intermédialité, en disant que finalement, ce que d'autres avaient dit bien avant, en particulier McLuhan, que bon, il n'y avait pas de révolution dans les médias, que tous les médias transportaient des médias antérieurs, etc. Et à la question, est-ce qu'il y a création, est-ce qu'il y a créativité? Bien sûr que oui, il y a créativité, mais ce n'est pas une créativité ex-générie qui arrive comme ça, ex nihilo, pardon. Donc, je pense qu'on est dans une véritable créativité. Alors ça, moi, j'en suis persuadée. Alors, le mot création, ça fait fuir les gens, parce que pour créer, il faut être Picasso ou je ne sais pas quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a de la création, oui, oui, oui. Ah oui.
Et puis pour en revenir aux inquiétudes qu'on évoquait tout à l'heure quant à une éventuelle menace qui planerait sur la créativité des auteurs de fanfiction si le monde marchand venait à s'intéresser d'un peu trop près à eux, on peut également se rassurer en se disant que si c'était le cas, les fans, comme ils l'ont toujours fait, trouveraient d'autres moyens, d'autres petits coins à l'abri des regards pour s'exprimer entre eux. Merci à Lucie Ronfaux et Brigitte Chaplin pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.